France Inter. .fr.
Ah, le modèle allemand. Vous savez, ce fameux modèle que tant de gens voudraient nous voir adopter en France. Eh bien, en Allemagne, le Pôle emploi local a proposé à une jeune femme de 19 ans, et ce n'est pas la première fois que ça se passe, un job de prostituée, tout simplement. Enfin, de prostituée. D'hôtesse d'accueil dans un Eros Center. Évidemment, comme ça, ça sonne mieux.
Bonjour, Daniel Mermet. Petite précision par rapport à la dette odieuse. Elle a été inventée par Alexander Sack en 1920, qui est ministre du Tsar. Et cette dette odieuse a servi la plupart du temps les États et non pas les citoyens pour annuler les dettes dites donc odieuses lors d'envahissements de ces États tiers sur d'autres États. À savoir, le plus récemment, eh bien, les États-Unis, lors de l'envahissement de l'Irak. Vous retrouvez un petit passage dans Debdocratie qui explique ça en détail. Et je pense qu'il faudrait que les citoyens s'emparent de cette notion, cette jurisprudence, pour annuler les dettes qui sont odieuses. Merci et à bientôt les AMG. Au revoir.
Je t'appelle parce que, figure-toi, j'aimerais bien que tu fasses une émission sur le peuple, hein, sur les femmes au travail dans les maisons de retraite. C'est des vraies usines de production de personnes âgées. Le temps humain n'existe pas. C'est assez stakhanoviste. C'est effrayant. Voilà, moi, je fais des petits remplacements à droite à gauche. Il y a des femmes qui sont épuisées, qui ont des valeurs humaines pas possibles. Et enfin, ce qui sous-tend ça, c'est le marché, le fric, et toujours de l'excellence sans moyens, bien sûr. Donc, à un moment donné, quand t'as pas de thunes et quand t'as pas de personnel, eh ben, les gens, eh ben, ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, ce serait bien que tous ces gens dont on n'entend pas et ces gens qui bossent beaucoup, ils soient un petit peu reconnus et peut-être qu'on pourrait faire bouger les choses parce que, tu sais, c'est que des emplois précaires. Donc, ce serait bien que tu fasses une petite émission.
Salut Daniel, c'est Yvan de Châteauroux. Bon, ben, je voudrais te remercier pour tes super émissions sur la Tunisie. Là, c'est toujours sympa quand tu voyages un peu. Là, tes émissions sont vachement intéressantes. C'est bien, quoi. Ça me fait voyager un petit peu. Moi, je suis dans mon petit jardin, là, en train de préparer mon terrain pour mes oignons, mes échalotes, mes petits pois. Alors, tu vois, je suis pas vraiment dans le même univers qu'en Tunisie. En plus, ça caille. Par contre, je voulais te dire, bon, t'as parlé de Ben Ali, très bien, là, bon, le dictateur, tout ça, de service, tout ça et tout. T'as oublié de dénoncer un petit peu la bourgeoisie tunisienne, la petite bourgeoisie tunisienne qui s'est bien enrichie sur le système de Ben Ali et qui est toujours là en place et tout. Aussi l'armée et les flics hein, qui ont servi à Ben Ali, au régime de Ben Ali. Voilà, salut Daniel, allez, à plus.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous. Je viens d'entendre ce matin à France Inter ou France Culture qu'il y a une loi qui est passée qui va interdire les paiements en liquide au-delà de 1000 euros. Voilà, donc déjà les chèques, on ne peut plus en faire dans bien des commerces, il faut savoir si c'est un moyen de paiement officiel ou pas. Maintenant, on ne peut plus payer en cash, voilà, on fait le jeu des banques à fond, donc maintenant on fera des virements, hein, et entre le moment où l'argent va quitter mon compte et où il va tomber sur le compte de la personne à qui je règle quelque chose, il va se passer un délai de 3 jours, comme en ce moment, ou 4, temps pendant lequel le pognon va encore tourner pour les banques. Et on est en train de nous faire croire qu'on essaye de régulariser l'éthique des banques.
La démission. Le souverain pontife, lassé de sa fonction, un matin, dépressif, donna sa démission. Son fidèle camerlingue, apprenant son désir de cesser cette vie dingue, tenta de le retenir. Enfin, mon très saint père, rappelez-vous le temps où vous couriez derrière les nonnes du Vatican, où vous donniez gratuitement votre bénédiction en échange d'une petite preuve d'affection. Vous avez, vieux farceur, moins d'allant pour la danse, et la vue d'une bonne sœur ne vous met plus en transe. Mais vous pouvez quand même, si le cœur vous en dit, dire un ou deux blasphèmes et vous goinfrez d'hostie. Insensible aux propos de son tendre copain, le moral à zéro, la tête entre les mains, le vieux chef de l'église, bourré au vin de messe, rien de tel, quoi qu'on dise, pour noyer la détresse, répondit à son pote, « Eh bien oui, je picole. Je peux plus voir les bigotes. En gros, j'en ai ras-le-bol. » C'était le poète sur la brèche. Salut.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe, bonjour à tout le monde. AMG, c'est quoi AMG? Je n'en sais rien du tout ce que c'est AMG.
Ah bah oui, ça c'est vrai. Ça veut dire auditeur ou auditrice, modeste et génial. Voilà, AMG, merci pour tous ces messages. Le petit poète, notre poète, s'est un peu été inspiré, je pense, par la crosse en l'air de Prévert, dont on a diffusé hier un extrait dans l'interprétation du génialissime Reggiani. Alors aujourd'hui, on continue, on est toujours en Tunisie. La raison, cet auditeur qui est en train de s'occuper de ses oignons, de ses petits pois, etc. Il prépare la terre pour le printemps, il est très malin. Et alors il dit, oui, mais alors t'as pas parlé de la bourgeoisie, de l'armée et de la police. Alors la bourgeoisie tunisienne, c'est une bonne idée, parce qu'elle a joué un rôle dans cette révolution tunisienne, la bourgeoisie, y compris la haute bourgeoisie, la bourgeoisie d'affaires. Elle a joué un rôle important. Les révolutions, c'est pas toujours le peuple, comme dans l'étoile de Delacroix, comme on aime. Il y a la bourgeoisie aussi qui s'en mêle. Pourquoi ? Parce que les Ben Ali et Trabelsi ne partageaient pas. Ils gardaient tout pour eux. Et il y a toute une partie de cette bourgeoisie d'affaires qui en avait un peu marre et qui a beaucoup contribué à les faire partir. Et qui aujourd'hui, aimerait bien prendre le pouvoir, quoi. Et ça, c'est un élément effectivement important. La police n'inspire toujours pas confiance aux Tunisiens. Ça, c'est bien vrai, même s'il y a des efforts qui sont faits pour constituer une police un petit peu plus républicaine, un peu plus citoyenne, comme on dit. Quant à l'armée, surprise, c'est un des traits particuliers de la Tunisie. Elle est très estimée. Elle est très populaire, cette armée. Elle n'est pas bien forte, mais elle est très... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est populaire. Et le général Amar est toujours cité comme l'exemple d'un homme respectable. C'est pas pour autant qu'il faudrait que l'armée constituât un recours dans les turbulences tunisiennes. Voilà, histoire de répondre à ces questions. Et répondre, vous allez pouvoir le faire aujourd'hui, parce qu'on va vous sonner. On va vous sonner. Vous avez ça chez vous, des gens qui vous vendent des fenêtres, du foie gras, des assurances-vie ou des panneaux solaires. Ils vous téléphonent depuis des centres d'appel. Et pour pas mal de ces centres d'appel, ils viennent de Tunisie. Il y en a 250 000 en France, des emplois pendant les centres d'appel, et 50 000 à l'étranger, dont entre 15 et 20 000 en Tunisie, en France. Un salarié d'un centre d'appel revient à 25 euros de l'heure à son pauvre patron, 25 euros, je pense qu'avec le matériel, avec les charges, vous savez que les patrons ont des charges sociales, c'est terrible. Alors que en Tunisie, c'est pas plus de 14 euros de l'heure. Donc, vous voyez, le calcul est vite fait. On va s'installer en Tunisie, on monte des centres d'appel, on s'arrange avec l'entourage de Ben Ali, on trouve des solutions pour placer... Voilà. Et c'est comme ça qu'on détourne, comme je disais hier, on ne sait pas, juste entre 15 et 20 milliards qui ont été détournés, entre autres de cette façon. Et puis, eh bien, on emploie qui donc ? Ah, le voilà, le revoilà, l'étudiant diplômé. Ah, ça c'est une figure de la Tunisie, du Tunisien. Il existe, je le rappelle, une union des diplômés chômeurs en Tunisie. Et eh bien, ces diplômés chômeurs trouvent là des emplois. Donc c'est pas les plus malheureux, c'est pas les plus mal payés non plus, à condition qu'ils trouvent un boulot. Et c'est avec eux qu'on va... Je rappelle, le taux de chômage officiel de la Tunisie, c'est 17%, mais c'est 30 à 40% dans la jeunesse. C'est donc avec eux qu'on va passer cette heure. Centre d'appel, Tunisie, vivement la révolution. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
L'histoire est lente, nous as-tu dit, Daniel, à propos de la révolution tunisienne. Et le grand retournement n'est sans doute pas pour demain. Mais les AMG du Limousin peuvent tous s'y préparer en venant rencontrer Gérard Mordilla au cinéma Le Lido à Limoges le vendredi 15 février à 20h30, où il présentera son film d'après la pièce de Frédéric Lordon. Un film qui vient à point pour ouvrir le débat sur les alternatives de demain.
Carnaval, carnaval, j'ai l'impression que c'est du carnaval partout.
partout. Carnaval au Brésil qui finit, carnaval à Nice qui va commencer. Mais à Nice, on est toujours en carnaval. Mais heureusement, il y a Mermet, heureusement, il y a le repère. Tous les deuxièmes mercredis du mois, donc ce mercredi 13 février à 19h au Falabrac Fabrique, de rue Benoît Bunicot dans le Vieux-Nice, Falabrac Fabrique. Ça, ça sent bon, le vrai carnaval. Bonne journée à tous, au revoir.
Bonjour, j'habite à Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Samedi 2 février, j'ai voulu me rendre au Géant, le fameux bâtiment en bord de mer ouvert spécialement pour 2013 et qui va fermer en mai parce qu'il n'est pas climatisé. Et il était fermé pour cause de rafales de vent. Donc j'ai continué un peu plus loin sur les quais et je suis arrivée au Mucem. Et là, surprise, des dizaines et des dizaines de curieux étaient rentrés dans le bâtiment qui était littéralement abandonné par les services de sécurité. Et donc il y avait plein de gens qui se baladaient dans le musée totalement vide, en vélo, qui promenaient leurs chiens. Tout le monde slalomait entre les câbles électriques qui pendaient un peu partout et les trous dans le sol. Mais les touristes avaient l'air contents, tout le monde en a profité pour prendre des photos. Enfin, merci Marseille, après 10 ans d'attente, j'ai finalement pu arriver à rentrer au Mucem.
Quand je vous écoute, mais vous vous prenez pour qui? Franchement, vous êtes toujours en train de critiquer, mais...
Alors là, je vois juste derrière vous, là, vous êtes appuyé contre le mur, et il y a écrit, alors, défense de parler en arabe sur le plateau.
Oui.
S'il vous plaît, vous pouvez m'accorder quelques instants, je vous explique de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Oui, madame.
Cette défense, il est écrit en rouge, hein?
Oui, parce que il faut parler uniquement en français, parce que ça s'entend au téléphone.
Un bon téléopérateur, c'est un bon français, un bon relationnel et une motivation infinie. C'est tout. C'est largement suffisant pour pouvoir atteindre l'objectif, pour être assez productif, quoi. C'est les trois critères de base, quoi.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Anaël Verzo, Tunisie, centre d'appel. Vivement la révolution.
Flight number 2, arriving from...
Ah, bonjour Anaël, enchanté.
Bonjour, enchanté. Là, nous allons juste voir celle du troisième, parce que c'est la seule qui est occupée actuellement.
Et vous êtes Mohamed?
Je suis Mohamed Farel, je suis le formateur dans la société. Déjà rien que sur dans cet endroit-là, il y en a 4 ou 5.
4 ou 5 centres d'appel.
4 centres d'appel différents, oui. Donc Prima Call.
Prima Call Center, là, on
devant la porte. Vous voyez, c'est moderne, hein, avec...
Ah oui, là, il faut passer un badge.
Voilà.
D'accord.
Rentrer, hein. Il y a des caméras IP partout.
Ouais.
Voilà, ça c'est pour la sécurité le soir. Donc voici notre salle de formation. Lorsqu'un nouveau arrive, en fait, il fait une journée métier.
Mm-hmm.
Donc les règles du discours, comment il doit parler. On leur fait un peu de culture française, les départements, les régions, quelques personnalités comme Léon Blum, le général Leclerc, le maréchal Foch, le général de Gaulle. Bref, on leur fait un tour d'horizon.
Ça sert à quoi?
Ça sert à enrichir la culture générale, parce que le système scolaire en Tunisie ne permet pas ça. Il y a plein de gens qui parlent en français correctement, mais ils n'ont pas la culture de la France. Pour un centre d'appel, c'est très important, rien que, par exemple, pour reconnaître que tous les numéros de portable commencent par un 06, c'est pas évident. Il faut qu'en formation, on demande ça. Donc, il faut que ce soit un réflexe. Que les numéros de téléphone français sont à 10 chiffres, qu'on lit 2 par 2, etc. Quelques exceptions, comme les codes postaux parisiens. Il ne faut pas dire 75-001, plutôt le premier arrondissement, le deuxième, le troisième, le quatrième. On fait ça pour Marseille, pour Lyon, parce que ça nous arrive assez souvent d'y travailler. Moi, je leur parle personnellement toutes les stations de ski, par exemple la principauté de Monaco, l'Andorre, la Corse, un peu d'historique. Comme ça, les gens comprennent mieux. Parce qu'il y a toujours un décalage entre le français qu'on enseigne à l'école et le français que nous devons utiliser.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnalité qu'il faut retenir? Il y a, je sais pas, le président de la République.
Le président de la République, un peu le fait que la France, là, on est à la 5e République, on passera bientôt à la 6e. toutes ces petites choses-là qui font qu'on arrive un peu mieux à engager le dialogue et surtout pour motiver les gens, pour leur donner envie de travailler pour la France, parce qu'en Tunisie, le principal client, c'est la France. Il y en a quelques-uns qui travaillent pour le Québec.
Prendre l'accent ?
Non, on en parle depuis la France, donc. On essaie d'avoir ça. Avec le décalage horaire, ce n'est pas évident parce qu'il y a 6 heures en Tunisie pour les joindre aux gens au Québec.
Ou la nuit même, non ?
Ou la nuit, et un peu en Belgique. Hein. Mais principalement, 90% des call centers, c'est le marché français.
Mais oui, la Tunisie, c'est pas que des islamistes, des salafistes, des grèves, des conflits, de la politique. Mais non, il y a une Tunisie performante, compétitive, moderne, positive, motivée, high-tech, qui sait s'intégrer à l'économie moderne, au monde tel qu'il est. C'est ce que nous allons entendre aujourd'hui avec ces centres d'appel tunisiens, un reflet de l'actualité, de la vie de la Tunisie d'aujourd'hui. Ces centres d'appel, je le disais, offrent, proposent, constituent une ressource pour, évidemment pas mal de salariés, mais essentiellement quand même, il faut bien le dire, une jeunesse, des chômeurs, diplômés, qui trouvent là des palliatifs. Alors on se dit, c'est des jeunes, un peu comme les étudiants ou les jeunes qui doivent un peu aussi s'initier au monde du travail. C'est quand même pas mal qu'ils sachent un petit peu, puisqu'ils vont appartenir probablement à l'élite du pays, c'est bien qu'ils sachent ensuite, lorsqu'ils dirigeront plus ou moins, de quoi est faite la vie quotidienne d'un salarié de base. Oui, mais sauf que par la suite, ils ne feront pas le boulot. Ils ne dirigeront jamais rien parce que ce pays est en panne et il n'est pas le seul. Vous allez nous dire, mais attendez, pourquoi vous êtes allé en Tunisie pour montrer ça ? Et vous aurez bien raison, on aurait pu aller dans d'autres pays, on aurait pu aller, je ne sais pas moi, en Corrèze ou à la porte de Vincennes pour montrer ce genre de choses. Je me dis souvent que le chômage, c'est quand même une bénédiction pour le pouvoir. L'histoire a montré que plein emploi et jeunesse éclairée, ça peut renverser la table. 1968. Plein emploi et jeunesse éclairée. Je pense que certains ont tiré la leçon de ces moments de l'histoire où on s'aperçoit que savoir, c'est commencer à désobéir. Et qu'est-ce que c'est qu'un pays qui, comme celui-là, mais comme beaucoup d'autres, voit sa jeunesse éclairée, sa jeunesse diplômée, partir, aller bosser ailleurs, en France, par exemple, 600 000 Tunisiens vivent en France, ou bien partir pour le Canada, là où on espère vivre mieux, on espère pouvoir trouver du boulot, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui perd ainsi ses cadres, sa matière grise, disons. C'est le rêve de Ben Ali. Un pays de flics avec en face de soi des délinquants qu'on fait marcher à la trique et à la baguette. Ben Ali est parti, mais on peut se dire, quand on parle avec nos amis tunisiens, vivement la révolution.
صبح على بيك بيك ما نجمش نقوم جاني من تلفيك بيم طفي تليفون اكل الافكار تزيد شنو نبدا اليوم بدهم نهد الحيط خير برا خلي نقوم نحط اختار نصنع لك بيت جديد بالمعون خذ اختار نصنع لك باسو بالمعون كجيت في مخي عايش راك تشطح فيك بربوم درجين في راسي تخيش وحدي في بحري نعوم مانيش ملياردير لا مازلت مانيش غني بخلف الغني ما عندي شي لا تلوع الفجر ولا تيوح الليلي وقفني ماركة تصل الصباح بالصوت كان اسمي بدأت تفتح بالصوت كان نجوم بدأت تبلاح بالصوت عندك بفلوة تقباح بالصوت كانك من عشق
طريق الفن جدد التصور قبل ما تعلك اسكن جدد التصور اي جدد التصور اي جدد التصور جدد التصور
tableau, je lis
plus voilà, juste, pub, avant juste avant le journal de 20h de TF1 pour cette marque là parce qu'il y a une pub qui passe sur LCI.
C'est quoi cette marque?
Ultimate Solar.
Et ça c'est quoi?
C'est un installateur de panneaux photovoltaïques.
Ah d'accord.
J'ai pas voulu faire de la pub dès le début, donc voilà. Donc là je leur montre en fin de formation, donc le premier jour c'est culture française et métier, deuxième jour nous faisons une introduction au produit.
C'est quoi photovoltaïque.
Photovoltaïque. Personnellement, je fais le contexte historique. La première crise pétrolière en 70, ensuite l'arrivée du nucléaire, Tchernobyl, le fait qu'il y a une sensibilité pour la protection de l'environnement. Du coup, on a eu un développement des énergies renouvelables, tous les avantages fiscaux comme le crédit d'impôt, etc., les subventions, pour motiver les gens pour qu'ils puissent comprendre. En troisième jour de formation, on entame le vif du sujet avec des simulations.
Là, on voit déjà sur le tableau, vous avez fait un petit schéma avec des
exactement,
ondulations.
Exactement, des ondulations avec pause, play, stop, enregistrement. Et je propose aussi trois scénarios.
Alors.
Donc, premier scénario, c'est rendez-vous avec Madame Duquesne.
C'est
voilà.
Qui
c'est le nom d'un prospect, en fait.
D'un donc, prospect.
Le prospect, ça veut dire monsieur tout le monde, le citoyen. En fait, on leur demande de dire un nom français compliqué pour qu'ils puissent connaître toutes les petites exceptions dans les noms communs en français. Par exemple, gros Jean, je ne dis pas grosse Jean, je dis gros Jean. Comme ça, il articule, donc on a le U, qui est une grosse difficulté, et on a aussi le S qui est muet, donc c'est un piège. Le fait de faire une dizaine de fois Madame Duquesne, ça permet d'habituer la mâchoire à ce genre de syllabes. À part la formation produit, nous leur proposons un script, donc c'est un discours type à prendre au début. Petit à petit, le téléacteur donc, crée son propre script.
C'est quoi le script, excusez-moi?
Le script, c'est un discours type apporté par le client, donc une introduction.
Par exemple?
Par exemple, bonjour, je suis avec un pseudonyme français, conseil de Ultimate Solar, partenaire Bleu Ciel EDF. Et nous vous appelons aujourd'hui dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur les énergies renouvelables. Ça, c'est un exemple.
Mais il ne faut pas dire quand même à Madame Duquesne que c'est un pseudo. Que vous avez
bien pris. Sûr, on ne leur dit pas. Donc, chacun d'entre eux a un pseudonyme différent. Donc, ils se présentent pour une personne qui habite en France. Parfois, nous nous proposons des noms espagnols. Par exemple, je suis Sandrine Lopez, je suis Laetitia D'Acosta.
Pourquoi espagnol?
Parce que c'est assez fréquent, en fait. Il faut éviter le roi pour des raisons commerciales. Il faut éviter le roi, de la Croix, Martin, Dupont. Parce que les Français, aujourd'hui, ils savent que c'est un pseudonyme. Et ils savent aussi que c'est un centre d'appel.
Ah.
Je préfère qu'on leur donne des noms plus ou moins communs, qui sont assez fréquents en France. Comme ça, le TA pourra se rattraper sur le fait que, pour dire par exemple que je suis espagnol et je viens d'arriver en France, ou je suis de parents espagnols.
Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes tunisien?
Parce que ça sera mal pris. Ils ne pensent pas qu'on les appelle vraiment de la Tunisie, sur un numéro français et que nous sommes là pour leur proposer un produit d'une société qui existe bien en France et que nous parlons le français.
C'est pas parce qu'ils sont un peu racistes parfois.
Entre autres, mais à part le racisme, il y a beaucoup de citoyens français qui ne croient pas au fait que techniquement c'est possible.
Donc ils se disent que c'est une arnaque.
Éventuellement.
C'est bien Madame Béranger.
Donc nous allons passer sur le plateau.
Ah, là il y a aussi une heure de pause déjeuner,
voilà,
trois pauses de 10 minutes.
Là c'est un règlement, donc c'est une phrase type ici. Une heure de pause déjeuner, trois pauses de 10 minutes.
Et à côté il y a une petite affichette.
Voilà, trois
où
retards
il est écrit...
supprimeront la prime d'assiduité.
Trois retards supprimeront voilà. La prime d'assiduité.
En fait je vous explique, dans le travail, en Tunisie malheureusement, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de retards. Du coup, pour motiver les gens, nous leur proposons une prime d'assiduité qui est assez importante, à part leur salaire, et que cette prime-là est supprimée si l'employé fait plus que 3 retards par mois.
C'est comme ça, carotte-bâton.
Voilà, autrement, il n'y a pas moyen, honnêtement. Donc là, je pense que c'est la pause de 10h30.
Hein. Ah oui,
voilà, là, la pause sur le plateau. Il y a 30 sessions actives.
Alors ça veut dire, là, on voit plein d'ordinateurs donc, qui sont disposés les uns à côté des autres, dans des espèces de petites cabines.
En fait, on les appelle des sessions de travail. Bonjour.
Bonjour.
Voilà,
bonjour.
C'est Houdé, donc le manager du plateau.
Bonjour.
Anaël Cazon de France Inter,
bien
c'est notre invité.
Alors, c'est quoi un bon salarié, un bon téléopérateur ?
Un bon téléopérateur, c'est un bon français, un bon relationnel et une motivation infinie. C'est tout. Voilà.
Ça suffit.
Oui, c'est largement suffisant pour pouvoir atteindre l'objectif, pour être assez productif, quoi. Mmh. C'est les trois critères de base, quoi. Vous voulez faire un petit tour ?
Oui, je veux bien.
Ouais, allez-y.
S'il vous plaît, vous pouvez m'accorder quelques instants, je vous explique de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Oui, madame.
Donc là, elle a une petite fiche. Il y a un formulaire à remplir avec titre, nom.
Oui, bonjour, c'est bien madame Béranger. Ravie, madame, je me présente, c'est Christine de la société Ultimate Solar. Je suis chargée de contacter les habitants de votre région qui sont propriétaires d'une maison individuelle. C'est bien votre cas ? Vous êtes locataire ? Merci pour l'accueil. Excellente journée. Au revoir. Merci.
Et là, elle a cliqué sur hors cible. Elle n'a pas voulu.
Merci, madame. Bonne journée. Au revoir.
Alors là, je vois juste derrière vous. Là, vous êtes appuyé contre le mur. Il y a écrit défense de parler en arabe sur le plateau.
Oui.
Cette défense, il est écrit en rouge, hein ?
Oui, parce que il faut parler uniquement français, parce que ça s'entend au téléphone.
Du coup, ce que vous dites, c'est si jamais il y en a une qui parle à sa copine ou à sa collègue en arabe.
C'est pour deux raisons. Ah. Les deux raisons sont en fait d'une pour ça, et de deux, plus on va se mettre à parler français, plus on va garder un français assez soutenu.
Mais là, vous nous disiez aussi que c'est parce que ça s'entendait au téléphone.
Non, ça s'entend entre autres, oui, entre autres. Ça s'entend au téléphone.
Deux raisons.
Quand vous dites ça s'entend au téléphone, et alors
ça...
Il ne faut pas que les Français entendent parler arabe.
C'est pas, faut pas que ça s'entende, mais c'est quand même mal
vu. Ça n'inspire pas confiance.
De toute façon, la population française sait maintenant qu'en fait, les centres d'appel, la plupart, sont en fait délocalisés dans les pays du Maghreb. Mais quand même, par rapport aux clients, c'est pas tout à fait professionnel. Je ne sais pas, si vous, vous êtes client, vous me demandez une certaine prestation, si entre autres, dans les échos, on entend de l'arabe, vous demandez du français, c'est un minimum un manque de respect.
Bah oui, quoi. Évidemment, quelqu'un me vend des fenêtres et qu'il a un accent arabe, ça vous refroidit tout de suite. C'est comme ça, tandis que... C'est fou, non, ce qu'on entend là. C'est fou ce qu'on entend là, non ? Tandis que si c'est un prénom ou un nom espagnol, portugais, ça passe mieux l'accent. Vous savez, tout ça, c'est les gens du Sud, hein, que ce soit. Mais il y a quand même des nuances, voilà. Sanchez, Da Costa, c'est quand même mieux que... Je sais pas, vous savez les noms de ces gens-là, quoi. Et non, mais ça se passe comme ça, hein, Qu'est-ce que c'est difficile de vendre hein. Quel boulot, quels efforts, quelle dinguerie pour arriver à nous faire consommer. Un énorme gâchis de ressources humaines. Bon, on continue. Donc la visite de ce call center. Call center, c'est de l'anglais. Hein. C'est ni de l'arabe, ni du français, ni du portugais, ni de l'espagnol. C'est vraiment du vrai anglais. Call center.
Merci madame,
bonne journée, au revoir. Voilà, on tombe sur monsieur Delanoë, comme par hasard. C'est vraiment monsieur Delanoë en ligne, hein. C'est pas une simulation.
Là, vous... Monsieur Delanoë ?
Oui, carrément.
C'est maire de Paris ?
Non, c'est pas maire de Paris. C'est quelqu'un d'autre. Voilà.
Ah non. Voilà.
Il n'y a pas que Bertrand Delanoë, il y en a plein de Delanoë, non ? Il n'y a pas que celui-là.
Voilà. On va aller
c'est une passion, en fait. Pour nous, c'est une passion.
parce qu'y rester pendant des années, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir de la passion pour faire ce métier-là.
Parce que les centres d'appel, je pense que c'est le seul métier que je peux garantir que d'ici la fin du monde sera toujours, toujours, toujours présent. Parce qu'on aura toujours besoin d'un centre d'appel pour peu importe l'opération.
Voilà.
Merci beaucoup. Plus.
Oui. Si on ne travaille pas, on vient tout le temps.
On contrôle.
Oui, la nostalgie.
La nostalgie ? Puisque quand même, on a...
On a passé des bons moments avec nos amis.
Ça y est. Bienvenue au quatrième étage. Il y a une inscription. Newcom Concept. C'est là ?
Oui, c'est là. Et voilà, dès que vous rentrez... Vous trouvez des caméras.
Vous étiez combien de personnes à travailler dans cette entreprise ?
52 téléacteurs avec 4 ou 5 responsables, chefs de plateau, cellules de validation.
Ce qui s'est passé, c'est que vous avez été arnaqué.
Oui. On n'était pas payé pendant 2 mois. On a arrêté le travail. Et ben, le dimanche, d'accord, on a eu l'information qu'il était en train de s'enfuir avec le matériel. Le patron, le gérant.
Oui, parce qu'il ne vous a pas payé 2 mois de salaire, ça fait combien 2 mois de salaire ?
Ça veut dire 500 euros pour 2 mois.
2 mois de salaire ?
Oui.
Pas payé. Octobre et novembre 2012.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Vous vous êtes battu ? Vous avez des syndicats ?
Oui, on n'a pas eu des syndicats concernant les centres d'appel, malheureusement. Voilà, c'est ça le problème. On n'arrive pas à cette étape.
Et donc vous avez occupé ?
Oui. On est venu là dès le samedi, c'est-à-dire on est resté 10 jours en train de manger ici, dormir ici, tous les filles, les garçons.
Ici, là. Là, on est dans un hall, alors voilà, on est dans le hall de l'immeuble. Vous étiez combien ici à dormir ?
16 personnes.
Et il s'est enfui.
C'est la porte du sous-sol où notre patron, il faut s'enfuir. Il a descendu comme ça, il a ouvert cette porte. Notre Wahbi, là, c'est-à-dire il s'enfuit du parking sous-sol.
Et vous avez porté plainte ?
Oui, bien sûr, on a porté plainte. On a notre avocat au premier étage et notre audience, ça sera demain à 9h le matin. Mais nous, ça a été la première, c'est-à-dire qu'on a porté plainte et on a été à l'inspection au travail.
C'est la première fois que des salariés qui travaillent quand même au noir, portent plainte contre leur directeur, contre leur patron.
Ouais. Oui, c'est la première fois en Tunisie.
Et bien voilà, vous avez compris l'histoire. Elles sont 52, ils sont 52, ces salariés de cette boîte qui s'appelle Newcom Concept. Ça, c'est de l'anglais, c'est peut-être même de l'Amérique. Newcom Concept. Et le patron, ben, il ne les a pas payés pendant 2 mois. Et puis il a disparu. Voilà, 52 multiplié par 500, c'est pas mal dans sa poche. Et il s'est évaporé, le patron. Un truc tout à fait classique qu'on trouve dans pas mal de pays. Et puis voilà, bon, bah, c'est comme ça, il n'y a pas de règlement. En Tunisie, vous travaillez 1 mois et puis il faut recommencer après. Il n'y a pas de chômage, pas d'indemnité, pas de... Évidemment, hein, c'est quand même, on est encore dans l'univers de l'ami Ben Ali, notre ami Ben Ali. Mais là, sauf que, eh bien, ces salariés de ce centre d'appel se sont réunis et ont lutté et sont au tribunal.
Alors, ça y est, vous êtes tous sortis là, de la salle d'audience et vous êtes une dizaine de personnes. Là, on est avec l'avocate des 52 salariés de Newcom Concept, ce centre d'appel qui a fermé. Et vous avez porté plainte contre le directeur, rappelons-le, qui vous doit l'équivalent de 500 euros.
Mais ici, c'est un état de droit, nous avons des lois et nous allons donc faire appliquer la loi ici. C'est la raison pour laquelle ils ont porté plainte pour essayer de recouvrer leur salaire dont ils n'ont pas été payés. Et donc on est parti en prud'homme pour essayer donc d'avoir un jugement à leur profit.
C'est fréquent ce genre de choses ou pas?
C'est devenu un peu fréquent ces derniers temps, surtout avec les sociétés justement étrangères. Des sociétés étrangères, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est des sociétés soit françaises, soit italiennes, soit belges, soit allemandes, qui viennent s'installer en Tunisie parce qu'il y a des encouragements aux investissements étrangers, une incitation, on a même un code entier pour l'incitation à l'investissement direct étranger. À partir de ce moment, donc, les étrangers viennent investir en Tunisie, que ce soit pour des sociétés de services ou pour des sociétés de production. Après la révolution, ce qui s'est passé, c'est que comme on a eu beaucoup de problèmes de sécurité en Tunisie, plusieurs d'entre eux n'ont pas vu leur projet refleurir comme ils l'auraient espéré. Ils ont eu des problèmes et tout. Donc, ils ont préféré partir. Bon, ce qui n'est pas bien dans cette histoire, c'est que quand ils partent avec les salaires des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, ça devient une catastrophe parce qu'il y a des familles qui ne vivent que d'un seul salaire.
Lors de l'audience, oui. Que vous a répondu le juge?
Cette première audience de réconciliation a échoué malheureusement parce que l'employeur a dit une fois « je veux bien les payer, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent », parce qu'il y a eu beaucoup de diffamation, parce qu'on a parlé de lui dans les médias, parce qu'il ne peut plus être crédible vis-à-vis de ses clients et donc il ne peut plus faire tourner son entreprise. Donc une première alternative, monsieur le juge lui a demandé de reprendre les employés. Il a dit oui, puis il a dit non. Oui,
il a changé
d'avis en un quart d'heure. Voilà. Donc, l'audience a été reportée pour le 28 février, pour une audience devant le tribunal. Nous avons confiance en le droit tunisien, nous avons confiance aux juges, nous faisons confiance à nos institutions, et nous avons porté plainte, et nous allons continuer jusqu'à avoir droit, jusqu'à obtenir donc un jugement en leur faveur.
Bien
sûr,
c'était votre première lutte.
Oui. Oui.
La solidarité entre nous, le fait de se connaître, oui, j'ai jamais vécu ça.
Oui. C'est vrai,
on a passé des nuits inoubliables.
Oui. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous, Alain. Bon courage.
Merci.
Inch'Allah. Alors là, on est à Tunis, à la terrasse d'un petit restaurant. Il fait doux. Et on est là avec Messaoud.
Messaoud Pacha.
Avec Dekra.
Dekra Alouche.
Et avec Walid.
Walid le Rouge. Walid Mehoub.
Walid le Rouge, oui, à cause de la couleur de ma peau.
Parce que t'as la peau blanche et t'es blond.
T'es blond, ouais. L'exception tunisienne. Je suis délégué syndical dans un centre d'appel. Et là, je travaille quand même dans un centre d'appel qui donne des services en informatique.
Quel centre d'appel?
Stream Global Service. C'est basé en France, à Vallisy.
Moi, j'ai travaillé pour un client français. C'est très connu. C'est la Redoute. Ah. Je passe des commandes et je traite des réclamations. Il y a des contraintes. Contraintes de qualité et des contraintes de temps. Tu dois traiter ton appel dans un temps bien déterminé.
Combien de temps tu as pour traiter un produit défectueux, par exemple?
C'était entre 2 minutes 50 et 3 minutes.
Et si tu dépasses, qu'est-ce qui te fait le superviseur qui est derrière toi?
Bien sûr, il va te stresser. Après 6 mois, bien sûr, il y a le rapport et tu peux être licencié. Pas de renouvellement de contrat. Et surtout, avec tout ça, avec un débit d'appel énorme. Toujours, il y a des appels, quoi. la Redoute paye Téléperformance par le nombre d'appels reçus. Donc toujours, c'est la pression...
Des clients, en fait.
Des clients, exactement.
Parce que la Redoute, c'est un client de Téléperformance.
Exactement.
Quel type de commande on te faisait ?
Du tout. Par exemple, à la Redoute, des vêtements, essentiellement, des lingeries, du meuble, mais aussi des produits intimes, par exemple, comme des vibromasseurs.
Donc, des vibromasseurs ?
Oui, oui, exactement. Donc, oui. C'était vendredi soir, j'ai travaillé sur le réclamation. Et il y avait une cliente qui a recommandé un vibromasseur de la Redoute. Elle m'appelle le vendredi soir pour demander où est sa commande, quoi. Du côté, moi, j'étais très stressé, épuisé. Et elle était très furieuse. Elle a besoin de ça, quoi. Mais le fautif, c'est pas moi. Le fautif, c'est la Redoute, quoi, qui n'a pas livré cette commande.
Comment ça s'est terminé, cette histoire ?
J'ai raccroché au nez à la fin. C'est pas professionnel, ça.
زمان اللي كنا فوار رجال احرار لا نخاف الثلج ولا النار لحنينا الروس ونكسنا ولبسنا يدينا القهار وللحسنا صبابة لعفسنا ولبعنا مرة السمسار مشينا على الحصحاص حملنا ونجينا شوك ومسمار زمان اللي كنا ثوار رجال حرار لنخاف الثلج ولا النار لنخاف الثلج ولا النار لحنينا الروس ونكسنا ولبسنا يدينا القهار للحسن صبابة العفسنا ولا بعنا مرة لسمصار مشينا على حصحاص حملنا نقينا شوفوا مصغار نركت من حدا ولا نعسنا ولا غفلنا ليل ولا نهار
J'ai décidé d'arrêter. Et sincèrement, je regrette cette expérience parce que c'est une expérience qui a beaucoup pris de moi. Et de ma santé, de ma mémoire, et de ma... on ne gagne rien de ce travail. À peine tu réponds à tes besoins, à peine.
Financièrement.
Oui, financièrement, mais mentalement, tu payes beaucoup.
Eh oui. C'est plus... Effectivement, dans nos régions, en Tunisie, peut-être aussi... c'est plus le corps, le muscle, le sang qui est en jeu dans l'exploitation. C'est la tête, c'est la psychologie, c'est les nerfs, c'est tout ça. C'est le temps sans limite, c'est une espèce de colonisation floue de l'esprit comme ça. Et le centre d'appel, c'est un peu ça. Ce à quoi ça entraîne. Alors évidemment, vous êtes en train de dire, oui, mais quand même, ils ont de la chance par rapport aux autres d'avoir du boulot, ils ont de la chance par rapport aux autres d'avoir pu faire des études, etc. C'est bien vrai, mais on essaye de dépeindre une partie de la société tunisienne aujourd'hui, et on se demande bien si c'est enviable. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment fonctionnent ces entreprises qui sont en grande partie françaises. Il faut rappeler que la France est le premier partenaire économique de la Tunisie. Il y a 1200 entreprises françaises qui sont installées en Tunisie, qui se sont très très bien entendues avec le pouvoir précédent. Et aujourd'hui, la question est un peu en l'air.
Pourquoi les centres d'appel viennent en Tunisie ? Bien évidemment, ils bénéficient des avantages fiscaux en Tunisie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'absence d'une convention sectorielle qui organise ce travail. Jusqu'à maintenant, en Tunisie, on est en train de négocier ça. Malheureusement, on n'a pas eu ça. Alors qu'en France, c'est déjà organisé. La troisième chose, il faut dire la vérité aussi, c'est que ces centres d'appel-là, ils donnent aussi certains avantages sociaux. Ils sont beaucoup mieux que des centres d'appel tenus par des patrons arabes. Ah bah oui, parce que pour un jeune Tunisien, le fait d'être titulaire dans ton travail, tu peux avoir un prêt de la banque, tu peux acheter une voiture. Donc le fait d'offrir ça encourage les jeunes à y rester. Par rapport en fait à la situation en Tunisie, c'est déjà pas mal.
Parce que faut rappeler, Walid, que toi, tu es membre de l'UGTT. Hein.
Je suis membre du GTT, je suis délégué syndical à ma société. Mes patrons, qui étaient des patrons et des directeurs français, ils étaient contre. Donc on a fait un petit peu...
Un bras de fer, tu fais un signe comme ça, là, avec ton bras.
Un bras de fer pour avoir un syndicat.
Le centre d'appel, c'est la délocalisation. Alors, par exemple, la société Téléperformance.
Qui est, rappelons-le, le premier centre d'appel.
D'appel presque au monde. Le deuxième ou le troisième homme dans cette société, c'est un Tunisien. Il s'appelle Jacques Berrebi. Jacques Berrebi, il n'a pas que les centres d'appel, il a beaucoup de sociétés ici en Tunisie. Et lorsque Téléperformance est entrée ici en Tunisie, lorsqu'elle a signé un contrat avec, bien sûr, l'État tunisien, c'est sous un autre nom. C'est l'STT, la Société Tunisienne de Télémarketing. Et du coup, cette société, elle a eu 10 ans de grâce.
De grâce
où elle n'avait pas besoin de payer d'impôts.
Exactement, exactement. Après 10 ans, bien sûr, ils sont obligés de payer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le nom de la société. Ça n'est plus l'STT, ça devient la société maghrébine de télémarketing. C'est juste d'échanger les T avec M.
Et à ce moment-là, 10 ans de plus.
Exactement, 10 ans de plus. Donc il y a beaucoup...
Et alors le Jacques Berrebi, là, le numéro 3 de Téléperformance, donc, qui a organisé tout ça avec l'aval de Ben Ali.
C'est la complicité de Ben Ali. Il y avait une sorte d'anecdote. Il disait que Jacques Berrebi entre dans le château du Ben Ali avec des tongs.
Des tongs ?
Des tongs. C'est-à-dire comme s'il marche dans, tu vois ?
Dans sa propre maison. Quoi.
Exactement. C'est une anecdote. Ouais, chez nous, à Téléperformance, on disait Jacques Berrebi entre chez Ben Ali avec des tongs.
Alors, nous, c'est ce qu'on dit qu'en rigolant, on dit que les centres d'appel en général, ils ont sauvé le trône de Ben Ali des années. Leur retarder la révolution. Pas dans le sens péjoratif, mais parce que les centres d'appel, ça a permis de créer des emplois pour des jeunes qui sont diplômés. Attention, quand je dis diplômés, vous n'avez pas aidé par rapport au massacre. C'est ce qu'on a, je peux l'appeler massacre. C'est-à-dire, vous avez des masters en économie.
Par exemple, toi, Walid, qu'est-ce que tu as fait comme études?
Ah, moi, je suis arrêté juste aux licences, en fait.
À la licence? Et toi, Messaoun?
J'ai fait une année de master, puis j'ai arrêté.
Donc vous êtes ce qu'on appelle les diplômés chômeurs.
Exactement. Et pour revenir sur un autre sujet, c'est qu'en 2006, avec des vétérans de l'UGET, l'Union des étudiants de la Tunisie, nous avons fondé ce qu'on appelle l'UDC. L'UDC, c'est l'Union des diplômés chômeurs. Et sincèrement, je peux le dire, c'est l'un des associations qui ont vraiment préparé la révolution, d'une, qui ont été très présents lors de la révolution. Demain, c'est le 14 janvier et je participerai pas.
Pourquoi ? Demain, c'est le 14 janvier, c'est les 2 ans de la fuite de Ben Ali suite à la révolution.
Je crois que les idées que nous avons militées pour les réaliser ne sont pas encore là. Je suis pour manifester, mais pour revendiquer, pour continuer cette révolution. Pas pour mettre cette révolution dans des vitrines. Je ne suis pas pour des folklores, quoi. La Tunisie est encore en plein révolution, à mon avis.
C'est quoi pour toi le but de cette révolution?
Le but de cette révolution, c'est la liberté, mais la liberté dans toutes ses dimensions. C'est vrai que nous avons milité beaucoup pour la liberté d'expression, mais n'oubliez pas, je suis un diplômé chômeur et j'ai 10 ans que j'ai été diplômé. Je n'ai pas un travail fixe, tu vois? Donc cette révolution est une révolution essentiellement, c'est une révolution sociale, quoi, pour la dignité, c'est-à-dire pour le travail, c'est-à-dire pour l'égalité. Et je crois que nous sommes très loin de concrétiser ces valeurs, quoi.
Walid, ça va? Alors Walid, on s'était vu en Tunisie il y a 3 semaines à peu près au mois de janvier. Et depuis, la situation a changé en Tunisie. Là, il y a Chokri Belaïd qui a été assassiné.
En tout cas, ceux qui ont fait ça, d'ailleurs tout le monde en fait, qui semble finalement les islamistes, parce que là, ils ont franchi une autre étape, une nouvelle étape par rapport à leur activité politique, par rapport à leur programme, en fait, quand. Jusque maintenant, ils se disaient comme étant des démocrates, ainsi de suite, ils toléraient tout le monde. Et même avec la mouvance salafiste, finalement, ils disaient, ben voilà, eux aussi, ils ont le droit de s'exprimer, ainsi de suite. Mais là, avec cet assassinat-là d'un opposant le plus farouche, on va dire le plus farouche par rapport, en fait, à ce parti islamique, là, il est assassiné. Ça, c'est du jamais vu. Même sous Ben Ali, on n'a jamais vécu ça, quoi. Donc là, à certains moments, on se sent qu'en Tunisie, on doit choisir un camp, finalement. Ou bien on est avec les islamistes, ou bien on est contre les islamistes. Malheureusement, c'est une lutte qu'on n'a jamais aimée. C'est-à-dire c'est un débat, ou bien c'est une lutte entre, soi-disant, laïcs et religieux qu'on n'a jamais espéré, nous, en tant que des activistes de gauche. Mais malheureusement aussi, elle se pose à nous.
Walid, qu'est-ce que tu penses de Manuel Valls en France, qui le 7 février a dénoncé du coup un fascisme islamique qui monte un peu partout ?
Il a utilisé des termes à laquelle même nous, on s'abstient de les utiliser. Parce que pour nous, en fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu un visage en fait fasciste, il faut le dire. Cette intervention, ça fait le jeu des islamistes de l'autre camp. On va ressortir toujours finalement... Les vrais, les anciens clichés colonialistes, ben voilà, ouais, les Français, les anciens colons, ça fait le jeu finalement de l'autre partie, du parti Ennahda, des islamistes et même des salafistes, voilà.
Walid, tu nous parles de tout ça, de l'état du pays, tu nous dis, bon, c'est quand même pas encore la guerre civile, mais on n'a jamais vu ça, l'assassinat d'un opposant. Et pour autant, toi qui es diplômé, tu restes en Tunisie. Parce qu'il y a quand même 600 000 Tunisiens qui sont partis s'installer en Europe.
J'ai choisi de rester en Tunisie parce que voilà, je reste toujours malgré tout optimiste. Mais ce n'est pas la vie générale de tout le monde ici. Voilà, il y a eu la révolution, il y a eu l'état de grâce, on va se débarrasser des Ennemis, on va se débarrasser des voleurs, ainsi de suite, de cette mafia-là. Finalement, après 2 ans, on se rend compte qu'économiquement, ça marche de plus en plus mal. Beaucoup de secteurs d'activité qui faisaient vivre beaucoup de monde, là, ça vacille, comme le tourisme, ainsi de suite. Et en plus que ça, on franchit des caps, en fait, dans l'action politique où il y a des assassinats, où il y a des systèmes, ainsi de suite. Donc il y a un sentiment de frustration, tu peux, partout chez la population. C'est pas aussi grave en même temps, faut dire, faut pas exagérer en même temps. Hein. Jusqu'à maintenant, on peut garder un certain rythme de vie comme ça a été avant. Non, je reste optimiste parce que je pense qu'on a fait quelque chose de beau par rapport à la révolution. Ce qui se passait en Tunisie, peut-être ce qui a été dans un autre pays, ça aurait été vraiment la guerre civile, bien autre chose. On a eu des exemples chez nos voisins, peut-être. Mais jusqu'à maintenant, tout le monde garde le calme. La plupart des gens gardent le calme. Donc,
Merci beaucoup, Walid. Merci.
Qu'est-ce que tu dis, Walid ?
Je disais que c'est un plat typiquement tunisien.
C'est de la viande de mouton avec beaucoup de légumes là. Ça ressemble un peu au tagine, un peu aussi à l'artonarara. Comment vous l'appelez en France ? Ah, parce que j'ai travaillé aussi dans un centre d'appel où je vendais de la cuisine italienne aux Français. J'ai oublié déjà ça. Ça s'appelle le San Lorenzo. J'ai vendu la cuisine bio italienne aux Français et j'ai fait l'italien. J'étais très à l'aise dans ce centre d'appel uniquement parce que je peux parler comme ça à mon accent, quoi.
Alors...
J'ai pu rouler les R. Bonjour, moi j'appelle Angelo Di Castello. Ouais. Et je vais vous proposer un panier italien où il y a 3 pâtes, 3 sauces, des pesto, du vin, des chianti, des pecorino. Et le pecorino, c'est un fromage de Brévi italien, du vinaigre balsamique de Modena, extravecchio. Il y a des préférences d'avoir l'accent dans ce centre d'appel. Tu dois avoir ce degré d'exotisme.
Oui, bonjour, c'est bien Madame Béranger. Ravie madame, je me présente, c'est Christine de la société Ultimax Solar. Je suis chargée de contacter les habitants de votre région qui sont propriétaires d'une maison individuelle. C'est bien votre cas? Vous êtes locataire? Merci pour l'accueil, excellente journée, au revoir. Merci.
Ah, je suis sûr que au prochain appel, votre perception changera. On espère au moins ça. Tunisie, centre d'appel, vivement la révolution. C'était un reportage d'Anaël Verzo. Merci à Pierre Souchon, Messaoud Pacha, Walid Mihoub, Selma Azridi, Enda Christian. Merci également à Jaouer, Sabrine, Imen et Kaoula. Et puis par ailleurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours sans nouvelles du journaliste Nadir Dendoun, qui est incarcéré actuellement en Irak depuis 3 semaines. Un rassemblement de soutien pour sa libération est prévu samedi prochain, le 16 février à 14h30, devant l'ambassade d'Irak à Paris, 53 rue de la Faisanderie, dans le 16e arrondissement. Un comité de soutien s'est constitué sur Facebook sous le nom Comité de soutien pour la libération de Nadir Dendoun. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, également sur le site labas.org, la-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes sur la Tunisie. Et puis vous pouvez faire un tour sur la page Facebook de la base où j'y suis. Cette émission a été réalisée par Lucie Hakoun et Chloé Sanchez, préparée avec Grégory Salomonovitch. À la technique aujourd'hui, Gaël Braouzek et Basile Bocquer. Et Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.